Bonsoir.
Bonsoir.
C'est toujours dans le cadre du cycle avec l'Université populaire de Bordeaux et les différents collectifs. Esmeralda, je te laisse les présenter.
Alors, le collectif libertaire de Bordeaux.
Voilà.
De Gironde, parce qu'à force que vous disiez Bordeaux, je finis par.
Ou Girondin.
Non.
Parce qu'on disait Girondin aussi des fois.
Voilà, non, c'est de Gironde. C'est un collectif qui s'est constitué il y a maintenant 2 ans. Pour justement organiser des événements, des rencontres. Ils sont regroupés dans ce collectif, eh bien, les deux CNT du coin, la librairie du Huguet, le groupe anarchiste bordelais, le GAB, le collectif féministe, Ouvert et contre tout, le cercle libertaire Jean Baruet et j'oublie qui. Non,
c'est bon.
Non,
c'est bon.
C'est faut tester, non ça. Voilà. C'est 5 comme les doigts. Ouais. Voilà. Donc voilà, on a commencé avec un cycle sur l'Espagne 36, la révolution, pour les 80 ans de la révolution. Et puis, on a décidé de continuer d'exister de manière comme ça épisodique pour organiser des rencontres. Et on a été ravis que l'Université populaire de Bordeaux. Et la bonne idée de dire un cycle sur l'anarchie, bon, on n'en croyait pas nos oreilles au départ, on s'est dit bon, ça intéresse tant que ça.
On a mis du temps à le monter en fait, ce truc-là.
Quelques mois.
Même en avant ça, c'est-à-dire. À l'université, il y avait 2-3 personnes comme ça dont l'idée avait un peu traversé, mais on n'arrivait jamais à se retrouver à 2 en même temps. Pour pouvoir, parce que c'est bien d'être à 2 sur un truc comme ça, parce que s'il y en a un qui est malade, comme ce soir, j'ai complètement oublié, on est 2. Il y a Hélène aussi qui participe au niveau du PV avec moi à travailler ce cycle. Et ben, quand il y en a un qui est malade, et ben, si on est tout seul, c'est la merde pour la soirée, en fait. Et c'est pour ça qu'il faut être vraiment 2. Sinon, c'est la cagade.
Voilà.
Donc voilà, ce soir, Laure Battier, je vais vous laisser vous présenter, enfin vous présenter, c'est peut-être plus simple, non ?
Ben voilà, je suis Laure Battier, je suis une des deux traductrices de ce livre absolument magnifique. Mais d'abord, bonsoir à tous et à toutes, à tous, peut-être c'est mieux comme ça. Ben au moins vous êtes nombreux, donc ça c'est super. Voilà, donc je suis très heureuse d'être ici. Moi, j'ai vécu à Bordeaux il y a très très longtemps et je connaissais bien effectivement la rue du Muguet aussi. Et donc d'être venue présenter ici cet objet, en fait, livre, qui a produit L'Échappée, donc d'Emma Goldman, Vivre ma vie. Voilà. Emma Goldman, elle a commencé à rédiger cette autobiographie. Début 1928, elle vivait à Saint-Tropez à l'époque, en France, et elle a fini ses mémoires en 1931, et elles ont été publiées en 1931 aux États-Unis avec le titre « Living My Life ». On sait que dans l'ensemble, le livre a été très bien reçu par les critiques, par le public, mais qu'il a été peu vendu parce qu'il était cher, et qu'on était en pleine période de crise économique, c'était 1931. Mais là, on sait qu'il a beaucoup circulé de main en main et dans les bibliothèques. Et dans l'avant-propos, vous trouverez beaucoup plus de détails sur l'histoire en fait, de cette première édition. Et puis ensuite, il faut attendre plus de 40 ans, le surgissement des mouvements de contestation de la fin des années 60 aux États-Unis, une nouvelle vague du mouvement féministe pour qu'il y ait une nouvelle réédition donc, de ses mémoires aux États-Unis et pour qu'on découvre en France Emma Goldman. Alors je pense que vous êtes un certain nombre à avoir lu L'épopée d'une anarchiste qui est parue en 1979 aux éditions Hachette. Ce n'est pas la traduction des mémoires d'Emma Goldman, ce n'est qu'une adaptation. Les deux traductrices, d'ailleurs, le disent elles-mêmes dans leur postface. C'est une version très abrégée, très remaniée du texte original. Il y a seulement un tiers du texte qui y figure. Et les plus grosses coupures, ça porte sur les années américaines. Or, les années américaines, c'est vraiment les années de formation d'Emma Goldman. C'est là qu'elle est devenue ce qu'elle a été, cette grande figure du mouvement anarchiste. C'est les années où elle a consacré la plus grande partie de son existence, puisqu'elle a vécu 35 ans aux États-Unis. Elle a eu 35 ans d'activité aux États-Unis. Voilà. Et à travers la vie d'Emma Goldman, ce n'est pas seulement sa propre vie, sa propre histoire que, dans lequel on plonge, mais c'est aussi dans l'histoire des mouvements de contestation qui se sont développés aux États-Unis depuis la fin des années 1880 jusqu'à la Première Guerre mondiale. C'est une histoire qui est en fait, et c'est aussi donc l'histoire du mouvement ouvrier radical, du mouvement ouvrier anarchiste, donc qui a existé aux États-Unis durant cette période. C'est une histoire qui est pas très connue en fait du lecteur français, enfin, du lecteur francophone, pardon, je veux pas que le lecteur français, parce qu'il y a les Canadiens, il y a les Belges et tout ça, tous ceux qui lisent le français, c'est le lecteur francophone. Il y a peu d'ouvrages en fait qui ont été consacrés à cette partie de l'histoire. Je veux juste citer les plus récents. C'est l'histoire populaire des États-Unis de Ward Zinn. C'est le livre magnifique qui est paru aux éditions L'Insomniaque qui s'appelle Wobblies et Hobos. Et c'est aussi un livre qui s'appelle Joe Hill qui est paru d'ailleurs aux éditions de la CNT en 2017. Voilà. Donc il y a d'autres ouvrages comme les ouvrages de Daniel Guérin qui avait publié Histoire du mouvement ouvrier américain aux États-Unis, mais je crois qu'il est assez introuvable à l'heure d'aujourd'hui. Voilà. Donc, on peut dire qu'on ne peut que rendre hommage à l'échappée d'avoir osé publier donc, les mémoires d'Emma Goldman dans leur intégralité. Il existe déjà des publications en fait en italien, en espagnol et en allemand, de l'intégralité des mémoires d'Emma Goldman. Mais voilà, donc ce n'est qu'aujourd'hui que paraît qu'on a enfin l'intégralité des mémoires d'Emma Goldman, et surtout qu'on puisse redonner la vraie image de ce qu'a été Emma Goldman. Parce que jusqu'à présent, pendant ça fait presque plus de 40 ans, qu'on a une vision déformée de ce qu'elle a été. Donc enfin, le lecteur va découvrir qui était vraiment Emma Goldman. Je voulais d'abord dire un mot sur le travail, comment on a fait ce travail de traduction. Ce travail de traduction, c'est le produit d'un travail collectif. C'est donc deux traductrices, moi-même, Jacqueline Royce, et deux camarades, Hervé Denez et André Bernard, qui malheureusement n'est pas là ce soir. Je regrette vraiment qu'il ne soit pas là, mais bon, je sais qu'il va m'entendre plus tard. Et c'est grâce à ce travail collectif qu'on a pu arriver à traduire 1100 pages. C'est ça, il y a 1100 pages ici. Hervé Denez, on a fait la traduction, Jacqueline Royce et moi-même, et Hervé Denez et André Bernard ont relu et ont corrigé du chapitre 1 jusqu'au dernier chapitre, c'est-à-dire qu'ils ont travaillé sur les 1100 pages avec nous. Donc c'est vraiment un produit du travail collectif, et c'est aussi un produit du travail collectif avec la maison d'édition L'Échappée, puisque eux-mêmes ont relu et ont corrigé le livre, et ils nous ont associés à toutes les décisions importantes pour la publication, le titre du livre, la quatrième de couverture, le choix des photos, puisqu'il y a un très beau livret photo. Voilà, donc j'insiste sur le fait que c'est vraiment un beau travail collectif que nous avons réalisé ensemble. Et quand on a commencé à faire le travail de traduction, en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'erreurs. Il y avait beaucoup d'erreurs. La première grosse erreur, c'est que Emma Goldman décrit avec une très très belle image qu'elle arrive en bateau dans le port de New York, et elle décrit la Statue de la Liberté qui apparaît devant elle. Et en fait, la Statue de la Liberté, quand elle arrive à New York, elle n'était pas encore sur son socle. Voilà. Donc ça, c'est une des premières grosses erreurs. Mais on a constaté beaucoup d'erreurs dans les noms, dans les orthographes des noms, les prénoms qui n'étaient pas les bons, dans les erreurs de date, dans les chiffres, les montants des cautions. Elle allait souvent en prison, donc il fallait payer beaucoup de cautions. On a fait le choix. D'abord, je voulais dire que pourquoi toutes ces erreurs. C'est parce qu'en fait, Emma Goldman, elle rédige ses mémoires. Elle est déjà en exil depuis plus de 6 ans, puisqu'elle a quitté la Russie en 1920. Elle rédige en 1921, elle rédige ses mémoires en 1928. Elle n'a plus d'archives personnelles et toutes ses archives américaines ont été confisquées par la police. Donc, pour pouvoir resituer le contexte de l'époque, elle demande à tous ses amis de lui renvoyer les lettres qu'elle leur avait écrites. Elle écrivait énormément, donc ça tombait très très bien. Donc elle a travaillé avec les lettres qu'on lui a renvoyées et avec les documents que des amis aussi ont pu lui envoyer. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'erreurs. Elle a rédigé une préface qu'on a appelée en guise de remerciement, dans lequel elle parle de comment en fait c'est voilà, elle a rédigé cette autobiographie et dans lequel elle raconte tout cela. Donc on a décidé de corriger les erreurs mineures et de laisser et sans faire de notes. Et pour les erreurs plus importantes, on a fait des notes. Mais on ne voulait pas rendre le livre absolument illisible, donc on a vraiment limité l'appareil de notes au maximum. Il y a aussi un index des noms, des organisations. Je pense qu'il sera un bon point de repère pour savoir qui elle a rencontré, les noms des organisations. Donc maintenant, je vais essayer de dire quelques mots sur la période américaine, ensuite sur la période des années russes, et ensuite sur les années d'exil, et quelques mots, d'autres mots en conclusion. Donc pour la période concernant les années américaines, Emma Goldman, elle arrive aux États-Unis en 1886, elle a 16 ans, elle émigre comme des millions d'émigrés à l'époque pour rencontrer une vie meilleure, elle émigre avec sa sœur, elle vient de l'Empire russe. Sa famille était une famille juive lituanienne. À l'âge de 13-14 ans, elle avait dû quitter l'école pour travailler. Et elle était devenue ouvrière dans la confection. Donc, quelques mois à peine après son arrivée aux États-Unis, en mai 1886, il y a les événements de Haymarket Square à Chicago. Ces événements, c'est ces événements qui sont le fondement de la fête du 1er mai, qu'on fête encore aujourd'hui. Une bombe avait explosé dans une manifestation. Il y avait des grandes manifestations ouvrières à l'époque pour réclamer le droit de 8 heures. Le mouvement anarchiste était très important à Chicago. Donc la bombe explose et évidemment, qui on accuse immédiatement? 8 anarchistes. À l'heure d'aujourd'hui, on n'a toujours pas prouvé que c'était eux qui avaient lancé la bombe. Il y a des morts, il y a des blessés. Les 8 anarchistes sont condamnés. 4 vont être exécutés, vont être pendus. 1 va se suicider en prison. Et les 3 autres vont être condamnés à la prison, dont 2 à la prison à vie. Ils seront libérés 20 ou 30 ans après. Donc ces mouvements, enfin ces événements, bouleversent complètement Emma Goldman, qui a 17 ans. L'hystérie anti-anarchiste s'était déchaînée. Et c'est ces événements-là qui vont être le fondement de son engagement dans le mouvement anarchiste et auquel elle va rester fidèle jusqu'à la fin de sa vie. Ensuite, à l'âge de 20 ans, elle arrive à New York, parce que quand elle était arrivée aux États-Unis, elle ne vivait pas à New York, mais dans une ville qui s'appelle Rochester, qui était au nord de l'État de New York. Donc elle arrive à New York avec sa machine à coudre. Elle est toujours ouvrière dans la confection. Et le même jour de son arrivée, elle rencontre Alexandre Berkman, qui est anarchiste, qui est russe, qui va devenir son premier compagnon de vie, son premier grand amour. Après, ils vont rester amis et ils vont rester compagnons de lutte pour toujours. On peut dire que la vie de l'un est indissociable, en fait, quasiment indissociable de la vie de l'autre. Et ce même jour, elle rencontre aussi Johann Most. Johann Most, c'était un ancien social-démocrate allemand qui était aussi exilé, qui était devenu anarchiste, et c'était un très grand orateur. Il va devenir le mentor d'Emma Goldman, il va la former politiquement, et très vite, il va découvrir qu'elle a des talents d'oratrice. Donc elle va devenir effectivement oratrice dans le mouvement ouvrier de langue yiddish et allemande au départ. Il faut dire qu'il y avait donc une bonne partie de la classe ouvrière immigrée qui venait d'Europe centrale, qui venait d'Allemagne, qui venait de Scandinavie. Donc on parlait le yiddish, on parlait allemand. Il y avait des grèves ouvrières donc massives pour cette classe ouvrière, donc de langue yiddish et de langue allemande. Et le mouvement anarchiste y était important. Donc Emma Goldman devient une oratrice très reconnue dans ce milieu-là. Mais elle a l'intelligence de penser que pour que le mouvement anarchiste se développe, il ne faut pas rester dans le ghetto immigré, il faut aussi s'adresser au public américain, aux ouvriers américains. Elle avait appris l'anglais de manière autodidacte, elle parlait bien l'anglais, elle savait déjà le russe, le yiddish et l'allemand. Et donc, elle va sillonner, à partir de ce moment-là, elle va sillonner le pays, les États-Unis, d'est en ouest. Elle va passer une grande partie de sa vie dans les trains pour intervenir dans les luttes ouvrières, les manifestations de chômeurs et pour donner des conférences. Pour donner un peu la place et le rôle qu'elle a occupé dans le mouvement ouvrier, dans le mouvement anarchiste, il faut resituer un peu le contexte de l'époque aux États-Unis. C'était une époque d'intense agitation sociale. Le taux d'exploitation de la classe ouvrière était absolument effroyable. Il y avait peu encore d'organes de médiation. Il n'existait pas de social-démocratie comme il existait en France, en Allemagne. Les syndicats étaient encore pas très puissants, pas très développés. Et les grèves étaient massives et puissantes. Et c'était des grèves, quand une grève surgissait dans un endroit, dans les mines, dans le textile, c'était des dizaines de milliers d'ouvriers et d'ouvrières qui se mettaient en grève. Les patrons n'avaient évidemment qu'une arme, c'était la répression. Et la répression était absolument terrible, parce qu'ils utilisaient des milices privées et ont tiré à balles réelles sur les grévistes. Donc c'est dans ce contexte-là qu'Emma Goldman va prendre toute sa place et qu'elle va devenir une oratrice très reconnue dans le mouvement ouvrier, dans le mouvement anarchiste. Elle intervient dans les manifestations de chômeurs, elle intervient dans les luttes ouvrières et elle y défend toujours l'action directe, la prise en main par des exploités de leur propre lutte. C'est toujours ça son message. Mais elle n'est pas qu'une agitatrice reconnue dans le mouvement ouvrier. Emma Goldman, c'est une femme, et en tant que femme, elle revendique sa liberté d'aimer qui elle veut, quand elle veut, combien de personnes elle veut. Elle revendique le droit de choisir sa propre vie. Et donc, le combat pour l'émancipation féminine va faire partie de ces combats. Un certain nombre, beaucoup de ces conférences vont porter sur ce thème, le thème de la femme nouvelle, de l'amour libre, de la sexualité. Mais il y avait le mouvement féministe à l'époque, elle s'opposait au mouvement féministe de l'époque, qui revendiquait en fait le droit de vote et le droit de travailler. Pour Emma Goldman, ça n'allait pas du tout, ce n'était pas le droit de vote et le droit de travailler, de revendiquer l'exploitation, ce n'était pas du tout dans sa vision des choses. Elle, ce qu'elle revendiquait, c'était une émancipation complète de la femme, c'est-à-dire dans sa façon de concevoir les choses, de concevoir le monde. Et elle n'hésitait pas à marteler devant des parterres de femmes que l'homme comme la femme sont responsables de la reproduction de la domination masculine, que la femme en est tout autant responsable. Et elle revendiquait donc le mouvement d'émancipation de la femme, non pas comme un mouvement qui doit s'opposer à l'homme, mais dans un mouvement pour être avec l'homme. Voilà, c'était ça son... Je résume très, très, très brièvement, mais c'était ça ses principales idées. Emma Goldman, elle avait appris le métier d'infirmière, en prison d'ailleurs, et elle avait appris aussi le métier de sage-femme. En fait, elle voulait être médecin, mais comme elle n'avait pas pu suivre des études, voilà, elle était devenue sage-femme. Et donc pendant des années, elle va exercer sa profession, en particulier de sage-femme, dans les quartiers les plus pauvres de New York, dans le Lower East Side. C'était là, c'était les quartiers où les femmes ne pouvaient pas aller à l'hôpital. Donc voilà, on avait une sage-femme qui venait à la maison pour accoucher les enfants. Et là, elle était complètement bouleversée par la condition de vie qu'elle découvrait. Elle était complètement impuissante devant ces femmes qui la suppliaient de leur fournir des moyens de contraception, de mettre fin à cette vie de misère et d'enfants qui arrivaient les uns après les autres. Donc le combat pour la contraception, pour le droit à la limitation des naissances, va faire partie de ces combats pendant de très nombreuses années. Emma Goldman, elle est aussi et profondément anti-patriote, anti-militariste. Pour elle, la guerre, c'était une affaire de marchands de canons, dans lequel les exploités n'avaient aucun camp à choisir. Et là, elle qui avait une si grande admiration pour Kropotkine, et pour lequel elle portait à qui elle portait une très grande affection, elle va s'opposer à Kropotkine au moment de la Première Guerre mondiale, quand Kropotkine se déclare en faveur de l'Union sacrée contre l'Allemagne, et elle va signer avec Malatesta entre autres et d'autres 35 autres anarchistes le manifeste international anarchiste contre la guerre. Donc chaque fois qu'il y avait des meetings, des réunions sur la question du patriotisme, elle n'hésitait pas à intervenir. Même quand les meetings étaient très houleux, les patriotes peuvent être extrêmement houleux, les soldats peuvent être très très véhéments, et elle avait une capacité absolument extraordinaire de retourner l'assemblée. C'est-à-dire qu'à la fin, en fait, on l'a laissé parler, ou les patriotes ou les soldats véhéments partaient la queue entre les jambes parce qu'ils ne pouvaient pas faire face à cette femme qui avait vraiment cette capacité d'abord d'essayer de les laisser parler et puis ensuite voilà, de retourner la manifestation en sa faveur. Parler des années américaines, c'est aussi parler de ses combats à côté des IWW pour demander la liberté d'expression. J'ai parlé tout à l'heure des conditions de répression que subissaient les grèves ouvrières. La répression contre le mouvement radical, contre les conférences, les meetings, était aussi extrêmement brutale. Ça arrivait très très souvent qu'un meeting prévu était annulé à cause de la police, de la répression, ou qu'au cours d'un meeting, la police arrivait et le meeting était interrompu, ou que dans le meeting, il y avait plein de policiers qui étaient là. Donc Emma Goldman, pendant de longues années, va combattre à côté des IWW pour défendre la liberté d'expression, et aussi à leur côté dans les luttes, dans un certain nombre de luttes ouvrières importantes. Les IWW, je pense que peut-être vous connaissez tous, mais voilà, c'est le syndicat qui revendiquait l'organisation à la base, l'action directe, ce que revendiquait Emma Goldman. C'était un syndicat qui regroupait tous les ouvriers d'une même entreprise, quel que soit leur sexe, quel que soit leur pays d'origine et quelle que soit leur profession. Et ça, c'était totalement à l'opposé du syndicat qui dominait alors le milieu ouvrier américain, qui était constitué essentiellement d'ouvriers américains et qui était organisé par corporation. Au moment de l'entrée en guerre des États-Unis en mai 1917, Emma Goldman avec Alexander Berkman et tous leurs camarades, évidemment, se prononcent immédiatement contre la guerre. Ils ne cessaient pas de le faire déjà depuis que la Première Guerre mondiale avait éclaté, mais là, c'est l'entrée en guerre des États-Unis. C'est la demande à ce qui est la conscription. Donc, ils s'opposent à la conscription. Ils forment une ligue de la non-conscription et ils sillonnent le pays d'est en ouest encore, pour défendre donc la non-conscription. Là encore, ce sont des milliers de personnes qui sont présentes dans leurs meetings, dans leurs manifestations. Ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure, c'est que quand Emma Goldman, elle sillonne de pays et qu'elle organise des conférences, ce sont des centaines de conférences qu'elle organise par an. Et ce sont des milliers de personnes qui assistent à ces conférences. C'est-à-dire, c'est montrer l'importance du mouvement de l'époque et l'importance voilà, qu'elle revêtait au sein de ce milieu. Donc, il y a ce mouvement pour la non-conscription. La répression du gouvernement américain est absolument terrible contre tous ceux qui s'opposent à la guerre. Et Emma Goldman et Alexander Berkman sont condamnés à la prison. Ils vont faire 2 ans de prison. Et ils sont condamnés à être expulsés de Russie, à leur sortie, à être expulsés vers la Russie, pardon, à leur sortie de prison. Voilà. Donc, ils vont partir en Russie avec Alexander Berkman. Ils vont être expulsés sur un vieux rafio qui s'appelle le Buford, et ils vont passer 2 années en Russie, donc de janvier 1920 jusqu'en décembre 1921. Sur ce bateau, le Buford, il y a aussi 247 autres expulsés qui sont des ouvriers radicaux russes et que le gouvernement américain a renvoyés chez eux. Et le chapitre sur cette épopée, en fait, c'est une vraie épopée sur ce bateau. Et moi, j'ai adoré traduire ce chapitre parce qu'il rend bien compte du climat qui régnait à l'époque et de l'enthousiasme qu'il y avait pour la révolution russe. Parce que très vite, donc, les expulsés vont protester, vont s'agiter pour demander des conditions bien meilleures de vie sur le bateau. Les soldats, puisqu'ils sont encadrés militairement, les soldats vont fraterniser avec les expulsés. Et un jour, il y a même une délégation de soldats qui va se présenter à Alexander Berkman pour lui demander d'organiser une mutinerie contre le commandement du bateau et pour que Alexander Berkman prenne le commandement du bateau pour les amener là en Russie, parce que là, il y avait la révolution. Bon. Et c'est la première fois qu'Alexander Berkman va être obligé de refuser une action directe, parce que c'était vraiment ça, quoi. Donc, quand ils arrivent en Russie, ils sont des ardents défenseurs de la révolution. D'abord, la Russie, c'est leur pays natal, c'est leur langue. Ça faisait des années qu'ils voulaient revenir en Russie. Je dis « ils » parce que là, je parle de Emma Goldman et Alexander Berkman. Ça faisait des années qu'ils voulaient donc revenir en Russie, mais ils avaient décidé de rester aux États-Unis parce qu'ils se sentaient plus utiles aux États-Unis. Et donc, la révolution enfin existe en Russie. Cette révolution pour laquelle ils s'étaient tant battus aux États-Unis. Donc, ils arrivent pleins d'enthousiasme. Et ils sont pleins d'enthousiasme pour le parti bolchevique. Quand ils étaient aux États-Unis, au moment où ils ont été condamnés et avant de rentrer en prison, ils ont eu une période de quelques mois parce que leur avocat avait fait appel. Donc ils ont été libres pendant quelques mois. Et là, à ce moment-là, avait éclaté la révolution d'octobre 1917. Et pendant ces quelques mois, ils avaient sillonné les États-Unis pour défendre la révolution russe et pour défendre le parti bolchevique. Et ça, même en s'opposant à beaucoup de leurs camarades anarchistes. Donc ils arrivent en Russie avec cet enthousiasme pour la révolution qu'ils identifient avec le parti bolchevique. Et la réalité que Emma Goldman va découvrir, évidemment, n'est pas celle-là. Il faut dire que le chapitre 52 sur la Russie, donc il s'appelle chapitre 52, Rêve brisé en Russie, c'est un document extrêmement précieux et extrêmement important parce que Emma Goldman, elle parle russe. Donc elle est russe, elle connaît la société russe et elle va circuler librement dans les marchés, dans les rues, dans les usines. Ils vont même aller dans les prisons. Elle va parler avec les gens. Ils vont rencontrer des camarades anarchistes. Voilà, donc elle est ancrée dans la société. Elle décrit ce qui se passe du point de vue d'un point de vue très, très intime par rapport à la société. Il faut dire aussi qu'ils vont séjourner 2 ans en Russie, ce qui n'était pas le cas souvent des délégués étrangers qui venaient en Russie pour voir ce qui s'y passait, qui en général y séjournaient quelques semaines, quelques mois, et qui étaient pris en charge par le parti bolchevique. Eux, non. Donc, ils peuvent circuler librement dans la société. Et ce qu'elle découvre, ce qu'elle constate, c'est une misère absolument terrible pour la majorité de la population. Il n'y a rien à manger, il n'y a pas de bois pour se chauffer. Les ouvriers qui travaillent dans les usines mangent du pain noir. Le parti bolchevique n'a pas mis en place encore des formes de distribution nouvelles, donc les marchés sont vides et l'administration bolchevique enlève, exproprie la production, exproprie aux paysans ce qu'ils produisent. Et ce qu'elle découvre, ce que découvre aussi Alexandre Berkman, c'est qu'il y a une société à deux vitesses, c'est-à-dire que les dirigeants bolcheviques, eux, ils ont les privilèges. Ils ont des rations de nourriture bien meilleures que celles de la majorité de la population. Leurs conditions de logement sont aussi bien meilleures. Leurs conditions pour voyager aussi sont aussi bien meilleures. Ils voyagent dans des bons trains. La majorité de la population voyage dans des trains. C'est absolument terrifiant comment elle décrit les gares et les trains. Voilà, donc c'est ça qu'elle va découvrir. Et elle va découvrir l'existence d'une bureaucratie qui commence à se développer à l'intérieur de toute la vie sociale. Dans les usines, il y a cette couche de parasites qui est là, qui encadre les ouvriers, les contremaîtres. Et au moment où on va se mettre en place la militarisation du travail, donc on va demander aux ouvriers de travailler bien plus que ce qu'ils travaillent. Et donc tous ces gens-là, il faut les nourrir, hein, tous ces cadres bureaucrates qui ne font rien, mais qui sont là pour contrôler les ouvriers, on doit les nourrir. Donc on prend les rations qui étaient destinées aux ouvriers. Voilà, c'est ça qu'elle découvre. Elle découvre la corruption et elle apprend les arrestations massives. Les arrestations massives de toute personne qui s'oppose aux pratiques du gouvernement, qui s'oppose aux pratiques du parti bolchevique, et surtout les arrestations des anarchistes, les premiers qui avaient été aux côtés des bolcheviques pour faire la révolution d'octobre. Et donc les arrestations, voilà, se font de plus en plus importantes, de plus en plus massives. Emma Goldman, c'est sa grande force, moi je trouve personnellement, mais je pense que vous serez d'accord avec moi, c'est qu'elle n'est pas dogmatique. C'est-à-dire qu'elle a des convictions très profondes, mais en même temps, elle regarde la réalité. Et elle ne regarde pas la réalité avec des lunettes idéologiques, elle regarde la réalité telle qu'elle est. Et face à cette réalité, elle cherche... Évidemment, face à cette misère auquel elle ne s'attendait pas, face à ces conditions qu'elle découvre en Russie, elle cherche des explications, elle exprime les doutes, elle questionne, elle interroge, elle se tourmente, elle interroge ses camarades, leurs amis, et comme avec Alexandre Berkman, ils sont des personnes très reconnues dans le milieu au niveau des États-Unis, ils sont aussi très connus par les dirigeants du parti bolchevique. Donc ils ont accès à pouvoir rencontrer les principaux dirigeants du parti bolchevique. Et donc ils vont les voir pour les questionner sur ce qui est en train de se passer, pour leur poser des questions sur pourquoi ces arrestations massives. Elle va aller voir elle-même Alexandra Kollontai, entre autres personnes. La grande Alexandra Kollontai qui va écrire sur la condition des femmes, et qui va lui dire « Mais quoi, tout ça, tout ce qui se passe dans la rue, cette répression, cette misère, mais ça, c'est des petites taches grises sur la révolution, ce n'est rien. » Ils vont aller voir Lénine en 1921, Emma Goldman et Alexandre Berkman. Ils vont aussi évidemment l'interroger sur la situation. Et sur l'arrestation des camarades anarchistes, Lénine va leur dire « Oh, ça, ce sont des bandits, c'est des macnovistes. Ce ne sont pas des anarchistes idéologiquement fiables. » Voilà quelle va être la réponse de Lénine. Et la seule chose qu'il va leur proposer, c'est de travailler au sein de la Troisième Internationale, ce qu'évidemment, ils ne peuvent pas accepter puisqu'ils veulent avant tout travailler de façon indépendante. Et pendant toute cette période, ils essayent désespérément de se rendre utiles à la Révolution. C'est ça qu'ils veulent, ils sont là pour la Révolution, donc ils veulent se rendre utiles. Emma Goldman, elle est infirmière, donc elle demande à travailler comme infirmière. Alexandre Berkman a fait des projets pour construire une maison de repos pour les ouvriers, pour organiser, pour que se mettent en place des cafétérias dans les villes, pour que les gens aient de quoi manger et puissent manger chaud et puissent manger une nourriture correcte. Il propose d'organiser un camp pour pouvoir accueillir les expulsés qui arrivent de Russie, qui viennent d'autres pays, surtout des États-Unis, mais rien. C'est-à-dire que toutes les tentatives qu'ils font sont vouées à l'échec à cause de cette bureaucratie qui entrave en fait toute capacité d'initiative. Et c'est ça qu'ils découvrent, c'est que il n'y a aucun... Et eux, ils s'attendaient à ce que l'initiative se développe dans la société, que les ouvriers prennent en main leur vie quotidienne, ou la population prenne en main ses vies quotidiennes, et c'est rien de ça qui se passe. C'est-à-dire que tout ce qui est initiative est condamné à l'échec, parce qu'il faut que ce soit centralisé, et parce qu'il y a cette bureaucratie qui est là, qui se met en travers, et donc qui aggrave en fait énormément la misère et les conditions de vie de la population, puisque rien ne fonctionne, la bureaucratie, l'administration même ne fonctionne pas. Et la seule chose qu'ils vont pouvoir, pour laquelle ils vont se sentir utiles, c'est qu'ils acceptent finalement le projet de travailler à un musée de la Révolution. C'était quand même sacrément ironique, parce qu'un musée, c'est déjà enterrer quelque chose, c'est déjà la mort. Donc là, c'est un musée de la Révolution. Et ils acceptent le projet parce que ça leur permet de voyager. Donc ils vont aller jusqu'en Ukraine, ils vont traverser la Russie en train jusqu'en Ukraine. Ils vont ensuite aller dans le Grand Nord, dans un port sur la mer Blanche qui s'appelle Arkhangelsk. Et là, ils vont découvrir ce qu'ils ont découvert à Moscou déjà et à Petrograd, c'est-à-dire la même misère, la même corruption, la même bureaucratie et les mêmes arrestations, en particulier les arrestations massives d'anarchistes ukrainiens. Pendant qu'ils sont là, Kropotkine, qui était rentré en Russie en février 1917 et qu'ils ont été voir à deux reprises pendant leur séjour en Russie, Kropotkine décède. Donc il y a des funérailles qui sont organisées en février 1921, et on peut dire que c'est la dernière grande manifestation anarchiste qui va avoir lieu en Russie. Il va y avoir tout un comité qui va organiser en fait les funérailles de Kropotkine. Si vous avez accès à l'internet, je pense que tout le monde a accès à l'internet aujourd'hui, on peut visionner donc ces funérailles de Kropotkine qui ont été enregistrées à l'époque. C'est un document extrêmement poignant parce qu'on y voit tous ces personnages importants du mouvement anarchiste, du mouvement anarchiste russe, mais on voit aussi Alexandre Berkman et d'autres, Alexandre Shapiro et d'autres organiser les funérailles. Donc ça va être vraiment le dernier grand moment de public où les anarchistes peuvent être ensemble. Ils vont se heurter à la bureaucratie bolchévique pour organiser ses funérailles. La Tchéka va empêcher un certain nombre d'anarchistes de participer aux funérailles, mais les funérailles, il y aura énormément de monde. Ce sera vraiment un grand moment. Donc toute cette période de doute, de questionnement, de tourment que rencontre Emma Goldman, en même temps, elle décide de ne pas et mettre en public ses critiques qu'elle porte au parti bolchévique. Parce que pour elle, comme beaucoup de personnes à l'époque, il y avait des priorités. La priorité, c'était défendre la révolution contre les ennemis extérieurs, contre les puissances internationales, et c'était défendre la révolution et le parti bolchévique contre les ennemis intérieurs. Donc pendant de longs mois, Emma Goldman n'aimait pas ses critiques en public, et c'est les événements de Kronstadt en mars 1921 qui vont vraiment provoquer la rupture pour elle comme pour Bergman avec le parti bolchévique. Ce qui est extrêmement poignant, c'est qu'ils sont présents physiquement au moment où éclatent les grèves de Petrograd en mars 1921. Et ils sont présents physiquement quand se tient le meeting le 4 mars 1921, quand il y a le meeting, le pétro-meeting de Petrograd, qui est présidé par Zinoviev, et où Zinoviev va déclarer les marins de Petrograd et les marins de Kronstadt et les grévistes de Petrograd contre-révolutionnaires, et que s'ils ne se soumettent pas, ils vont être massacrés. Donc ils sont tous les deux présents dans ce meeting, et Emma Goldman, qui était la grande oratrice, elle est tellement bouleversée par ce à quoi elle assiste, par ce comportement de Zinoviev et des bolcheviks qui sont présents là, qu'elle ne peut prononcer aucun mot. Ils vont quand même, avec Alexandre Bergman et deux autres camarades anarchistes, émettre une protestation qu'ils vont adresser à Zinoviev durant la nuit, et où ils demandent en fait à ce qu'il y ait une commission qui essaye de régler à l'amiable le conflit avec les ouvriers de Petrograd, les marins de Kronstadt et le parti bolchévique. Mais rien n'y fait, le massacre aura lieu, et pendant 10 jours, ils seront à Petrograd, et ils vont entendre les mitrailleuses sur leurs frères. C'est à ce moment-là qu'ils vont décider de quitter la Russie. Avant, ils n'avaient absolument jamais pensé pas partir. Ils décident de quitter la Russie, non pas pour sauver leur vie, parce qu'ils étaient des personnages connus, donc ils pensaient qu'on n'allait pas trop leur faire du mal, bien que, ça pouvait peut-être se passer, mais surtout parce qu'ils pensent qu'ils sont plus actifs, qu'ils sont plus utiles à la révolution, ou qu'ils sont plus utiles à la situation à l'étranger, qu'ils pourront continuer à défendre tous les anarchistes emprisonnés en Russie, et surtout qu'ils pourront faire entendre à l'étranger ce qui se passe en Russie. C'est-à-dire que c'est le parti bolchévique qui a étouffé la révolution, et quelle est la vraie nature, en fait, de l'État bolchévique. Donc ils partent en décembre 1921, et Emma Goldman sera effectivement une des premières voix à dénoncer à l'étranger la nature du gouvernement bolchévique. Donc maintenant, je vais parler sur ces années d'exil, le moment où ils quittent la Russie, donc en décembre 1921, et où ils vont vivre jusqu'à la fin de leur vie, que ce soit pour Emma Goldman et pour Alexandre Bergman, donc une vie d'exil. En 1923, Emma Goldman écrit beaucoup d'articles dans les journaux pour dénoncer ce qui se passe en Russie, et elle écrit un livre qui a été complètement saboté par l'éditeur, qui va paraître aux États-Unis, donc pour dénoncer la situation en Russie, la nature de l'État bolchévique, et le livre sera expurgé de ses 12 derniers chapitres. Donc elle va pouvoir le rééditer en 1925, et en fait ce livre vient d'être traduit en 2017 par Les Nuits Rouges. Il est sur la table là-bas, je l'ai vu, et il s'appelle « L'agonie de la Révolution, mes 2 années en Russie ». Oh, c'est bien, il y a un chien, c'est agréable. J'espère qu'il n'est pas méchant, c'est tout. Alexandre Bergman, lui, en 1925, il va publier donc le mythe bolchévique. Là aussi, j'ai vu que sur la table, il y avait ce livre, où il va aussi rendre compte de son analyse de la révolution, de ce qui se passe en Russie. leur position contre la dictature bolchevique sont évidemment très très mal reçues en Europe, aux États-Unis, et évidemment très mal reçues par les communistes. Donc ils vont être mis au banc, au banc politiquement, et ils vont être aussi mis au banc dans leur vie quotidienne, puisqu'à partir de ce moment-là, ils vont vivre une vie d'exil. Alors Emma Goldman va aller de la Suède, en Allemagne, en Angleterre, en France, au Canada. Alexandre Bergman, lui, va s'arrêter en France. Leurs visas vont être renouvelés à chaque fois pour de très très courtes périodes, parce que la Tcheka et le FBI font pression en fait sur les gouvernements qui les accueillent pour que leur visa en général ne soit pas renouvelé ou renouvelé pour de très courtes périodes. Donc c'est des conditions de vie extrêmement précaires. Ils n'ont pas de logement. Emma Goldman pourra quand même avoir cette petite maison à Saint-Tropez dans laquelle elle va pouvoir écrire ses mémoires. Et qui sera voilà, un moment où elle va alterner de résidence d'Angleterre en France, au Canada. Ils n'ont pas de travail, donc ils ont des conditions de vie très précaires au niveau matériel. Ils survivent pour Alexandre Bergman par des traductions, pour Emma Goldman par des conférences qu'elle donne, et aussi parce qu'ils ont beaucoup d'amis qui les aident à subvenir pendant cette période. Et aussi, c'est un exil politique parce qu'ils n'ont pas le droit d'intervenir dans la vie politique du pays dans lequel on accepte qu'ils vivent. Donc pour eux, c'est extrêmement difficile. Donc le livre, lui, s'achève en 1928, mais évidemment, ce sont les mêmes conditions qui vont gérer, dans lesquelles elle va continuer à vivre jusqu'à sa mort en 1940. Emma Goldman continue à s'intéresser à la situation qu'elle voit devant ses yeux. C'est la montée des dictatures, c'est la montée du régime nazi en Allemagne, c'est la situation de Mussolini en Italie. Donc elle continue à donner des conférences sur ces thèmes-là, mais aussi sur d'autres sujets. En 1934, elle réussit à avoir un visa de 3 mois pour les États-Unis. Les États-Unis, c'est le pays où elle voulait retourner, vivre. C'était le pays où elle se sentait, qu'elle serait le plus active et où elle avait vécu les plus grandes parties de son existence. Donc on lui accorde un visa de 3 mois. Elle est extrêmement bien reçue par les journalistes. D'ailleurs, là aussi, on peut voir sur YouTube une courte interview qu'elle donne aux journalistes. Elle donne des conférences. Comme elle n'a pas le droit d'intervenir sur la situation du moment, elle intervient quand même sur ce qui se passe en Allemagne, en Italie. Alors elle tronque les titres de ses conférences. Elle dit que ça s'appelle la tragédie de la culture allemande, la tragédie de l'Europe. Et elle continue et elle donne des conférences sur Living My Life, parce qu'il faut essayer de faire vendre le bouquin. En 1936, en juin 1936, Alexandre Bergman décède. Il décède à Nice. C'est un énorme chagrin pour Emma Goldman, parce que jusqu'à la fin de leur vie, même s'ils n'étaient plus compagnons de vie, ils étaient extrêmement proches. Ils avaient des relations vraiment très 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 proches. Ils s'écrivaient tous les 2 jours, tous les 3 jours. Voilà, et c'était vraiment le compagnon avec qui elle échangeait ses idées. Voilà, il décède. Mais un mois après, éclate la révolution espagnole. Et sur l'invitation de la CNT-FAI, donc elle se rend en Espagne, elle va s'y rendre à 3 reprises, en 1936, en 1937, en 1938. Elle va aller à Valence, elle va aller à Barcelone, elle va rencontrer Durruti sur le front d'Aragon. Elle n'est pas d'accord avec la direction de la CNT-FAI de participer au gouvernement Caballero, et elle n'est évidemment pas d'accord avec leur attitude conciliante envers le Parti communiste espagnol et avec les communistes russes, mais elle ne veut pas nuire à la révolution, alors elle ne défend pas en public ces positions-là. Elle ne critique pas en public la direction de la CNTFI, mais elle le fait dans les nombreuses lettres qu'elle écrit à ses camarades. Comme elle ne parle pas la langue espagnole, elle pense qu'elle est plus utile en Angleterre, où elle continue à organiser des manifestations, des meetings, des campagnes de soutien pour donc soutenir la révolution espagnole, lever des fonds pour la révolution et ensuite soutenir les réfugiés espagnols. À partir de 1937, elle va être déléguée, elle va représenter l'organisation Solidarité internationale antifasciste en Angleterre. Et jusqu'à la fin de sa vie, elle va continuer, que ce soit en Angleterre, que ce soit en France, que ce soit au Canada, à défendre donc la cause de la révolution espagnole, les anarchistes espagnols, mais aussi à continuer à lever des fonds pour les anarchistes russes qui avaient pu sortir de Russie, qui avaient été expulsés de Russie et qui arrivaient en Europe dans des conditions de vie extrêmement précaires. Donc elle et Bergman vont continuer à lever des fonds pour pouvoir les soutenir matériellement, financièrement et politiquement. Elle meurt en 1940 à Toronto, c'était là qu'elle résidait depuis un an. Ce que les États-Unis lui avaient refusé de son vivant, ils vont l'autoriser quand elle va mourir, puisqu'ils vont accepter que sa dépouille soit enterrée, qu'elle soit enterrée au cimetière de Waldheim à Chicago, là où étaient enterrées les victimes de Haight Market Square. C'est ça qu'elle voulait, c'était son désir. Voilà, et elle va être enterrée donc à Chicago, à côté aussi de Voltairine de Clare. Il y a un livre là, voilà, les écrits d'une insoumise de Voltairine de Clare sur la table, qui était aussi une grande figure féminine du mouvement anarchiste et pour qui Emma Goldman avait le plus grand respect et qui a longtemps contribué avec Emma Goldman et avec Alexandre Bergman, voilà, à être dans le mouvement. Voilà, je voulais dire aussi que Emma Goldman, elle a plusieurs facettes, et une de ces facettes, c'était, qui est extrêmement riche, c'était sa grande curiosité pour toutes les formes d'art qui rompaient avec le passé, pour toutes les formes d'art qui essayaient qui réfléchissaient à comment trouver de nouvelles libertés de pensée, qui essayaient de préfigurer ce que serait l'homme ou la femme dans une société nouvelle. Et elle était passionnée de théâtre, donc elle va se passionner pour le théâtre moderne qui se développe à l'époque. C'était Strindberg, c'était Ibsen, c'était Tchekhov, c'était Tolstoï. Elle va donner de nombreuses conférences aux États-Unis sur donc ses dramaturges. Elle va publier en 1914 un recueil de textes de ses conférences, en fait, sur le théâtre, qui s'appelle « La signification sociale du théâtre moderne ». Malheureusement, il n'est pas publié encore en français. Donc voilà, ce serait bien qu'il soit publié. Et elle est aussi passionnée de littérature. Et elle s'intéresse énormément à la littérature nouvelle. Elle était une grande fanatique de Nietzsche. Quand elle allait participer à un meeting ou une manifestation, elle amenait toujours avec elle des petites affaires de toilette et un livre. Parce qu'au moins, elle pensait qu'elle allait être arrêtée, puisque la répression était extrêmement forte. Elle pensait au moins qu'elle allait pouvoir, voilà, agrémenter son séjour en prison avec un livre, et qu'au moins là, elle aurait le temps de lire, parce que quand elle était dans la vie publique, elle n'avait pas forcément le temps de lire. Elle va publier pendant 11 ans une revue qui s'appelle Mogelhof, qui va durer de 1906 jusqu'en 1917, qui va être en fait arrêtée par la censure, par la répression américaine. Et son idée de cette revue, c'est ça qu'elle a voulu faire, c'était une revue qui associait les idées sociales à toutes les expérimentations dans le domaine artistique. Et à cette revue vont participer aux couvertures de cette revue de nombreux artistes connus à l'époque, comme Man Ray, qui a été un élève donc de l'école moderne qu'ils avaient fondée avec Alexandre Bergman. sur le modèle de l'école moderne de Francisco Ferrer, du centre Francisco Ferrer. Donc il y a des couvertures de Man Ray, il y a des couvertures de Félix Grandjouan, qui était un grand illustrateur français, un anarcho-syndicaliste anarchiste français, de Robert Minor, qui était un dessinateur américain. Voilà, donc ils vont faire ces couvertures de cette revue. Donc ce livre-là est tout sauf un ouvrage froid et factuel. Emma Goldman, elle a vraiment l'art de compter. Et elle donnait une grande place aux ressorts sensibles, aux émotions qu'elle avait elle-même, aux ressorts sensibles de son être, à ses émotions, à ses doutes, à ses contradictions, et aussi aux ressorts sensibles des êtres qu'elle rencontre. Elle était, quand elle avait fait ses études de sage-femme à Vienne en 1886, elle avait été écouter les conférences de Freud. Elle avait été complètement passionnée par cet homme qu'elle disait extrêmement simple, mais d'une intelligence extraordinaire. Elle disait qu'écouter Freud, c'était passer de la cave à la pleine lumière. Et donc, ça a profondément imbibé la façon dont Emma Goldman appréhendait les gens. Elle avait une très grande finesse psychologique. Et elle livre des portraits des gens qu'elle rencontre, des portraits extrêmement humains, les portraits de Pierre Kropotkin, de Louise Michel, d'Alexandra Kollontai, de Radek, de Lénine. Elle en fait de Maxime Gorky, elle en fait des très très beaux portraits. Emma Goldman, elle voulait aussi, évidemment, vivre la vie qu'elle revendiquait pour les femmes, c'est-à-dire la vie, d'avoir une vie amoureuse libre. Donc c'était une femme qui a connu de nombreuses passions amoureuses. Elle en parle, elle se livre dans son livre, sa relation avec Alexandre Bergman, avec Edouard Brady, qui était un anarchiste allemand, un anarchiste autrichien, pardon, qui avait fait lui aussi de nombreuses années de prison et qui avait été exilé aux États-Unis. Avec Ben Reitman, voilà, font partie de ces grandes relations amoureuses qu'elle décrit, et elle nous les décrit en nous parlant de ses joies, mais aussi en nous parlant de ses doutes et des contradictions que ces relations amoureuses font naître dans son cœur et aussi dans sa tête, dans son esprit. Et je pense que quand on lit Emma Goldman, c'est une lecture aujourd'hui extrêmement moderne. C'est peut-être, on peut le voir comme une amie très proche qui nous raconte son histoire. Ses mots résonnent en nous comme l'histoire d'une femme et de nous aussi. Voilà, comment chercher sa liberté. Voilà, c'est ça que je trouve est absolument extraordinaire dans ce témoignage qu'elle nous livre. Et je m'arrête là. Ben voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'essaierai d'y répondre.
J'avais une question sur la construction du livre lui-même. Je ne l'ai pas lu. Est-ce que c'est un déroulé chronologique? Est-ce qu'elle l'aborde par des thématiques? Comment est-ce qu'il est construit?
C'est-à-dire qu'il est construit, c'est ça qui est extraordinaire. Elle a l'art de compter. C'est-à-dire que elle commence le livre quand elle arrive à New York, parce que c'est là qu'en fait, pour elle, c'est cette arrivée à New York qui va déterminer. Non pas son engagement dans le mouvement, parce qu'elle était déjà, quand elle était à Rochester, avant d'arriver à New York, mais elle va rencontrer Alexandre Bergman, elle va rencontrer Johann Most, et c'est là que sa vie va commencer. Voilà. Et ensuite, en fait, ça va être un récit plus ou moins chronologique, mais où elle fait de nombreux allers-retours sur sa vie d'enfant, sur ses relations avec ses parents, sur sa vie d'enfant, oui, voilà, vous m'entendez, sa vie d'enfant, ses relations avec ses parents, voilà. Donc elle fait des allers-retours comme ça en permanence, enfin surtout sur les premiers chapitres, sur son enfance. Donc c'est un espèce d'aller-retour, mais en fait après c'est une suite chronologique jusqu'à donc il y a le chapitre 52 qui est un très très gros chapitre puisque ce sont ces années en Russie, c'est 202 pages dans la version originale, je ne sais plus combien ça fait dans la version, ça doit en faire bien plus dans la version française. Et ensuite donc ce sont les derniers chapitres, c'est sur les dernières années qui vont en fait précéder l'écriture de son autobiographie. Voilà, c'est comme ça qu'elle a construit le livre. Elle dit que pour elle, et ça elle le dit dans, il y a des lettres qui ont été publiées aux États-Unis qui malheureusement n'ont pas été traduites en français, qui s'appellent Nowhere at Home. Ce sont les lettres d'exil entre elle et Alexandre Bergman, et aussi entre elle et d'autres personnes, et Alexandre Bergman et d'autres personnes. Et dans ces lettres sont assez extraordinaires parce qu'ils s'y livrent chacun l'un l'autre. Bon, ils s'écrivaient effectivement énormément. Ils ont des relations extrêmement affectives. Donc on voit la nature de leur relation. Mais pourquoi je disais ça? Tout d'un coup, j'ai un creux. Oui, c'est parce que dans ces lettres-là, elle décrit que pour elle, donc, parce que évidemment, elle n'avait pas une grande aptitude à l'écriture. Alexandre Bergman disait qu'elle, son lieu, c'était la tribune, c'était la plateforme, c'était là où elle était vraiment ce qu'elle était, quoi. C'est-à-dire qu'elle savait, c'était vraiment une oratrice née. L'écriture, c'était plutôt Alexandre Bergman. Donc lui, c'est plutôt lui qui corrigeait ce qu'elle écrivait, les articles. Donc c'est lui qui va corriger son autobiographie. Elle le raconte dans l'avant-propos qu'elle a écrit, qui s'appelle « En guise de remerciement ». Elle avait d'ailleurs très peur de ce que Alexandre Bergman allait lire de lui-même, du portrait qu'elle faisait de lui-même. Voilà, donc c'est lui qui va corriger son autobiographie. Et elle dit à quel point aussi ça a été difficile pour elle d'écrire ça, parce que ça lui a fait revivre, évidemment, elle revivait en écrivant ses mémoires, elle revivait des épisodes qui avaient pu être extrêmement douloureux. Voilà, donc, et que c'était difficile pour elle d'en accoucher. Elle dit aussi que, concernant sa période amoureuse, évidemment, elle n'a pas tout décrit. Donc, elle a pris des expériences qui étaient pour elle le plus importantes. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question.
Oui, quand on voit le livre, on peut supposer qu'il est lourd, ce livre, et le risque, si on veut le lire au lit, c'est qu'il devienne, au sens propre du terme, assommant. Alors, est-ce que l'échappé a prévu une version numérique? Est-ce qu'on peut peut-être le lire de façon plus légère?
Ben ça, alors là, j'en sais strictement rien. Ce que je sais, c'est que pour l'échappé, ça a déjà été un énorme investissement d'arriver à faire ce livre, qui n'est pas du tout lourd dans sa... C'est vrai qu'il est lourd physiquement, mais il se lit comme un roman d'aventure qui est une aventure vraie, et pas une fiction. Alors ça, je ne sais pas, franchement, je ne sais pas. Il faut déjà qu'on arrive déjà à le vendre, parce qu'il a coûté très cher. Donc, et parce que c'était le premier livre que... Quand la maison d'édition s'est fondée, l'échappée, c'était le premier livre qu'il voulait publier, mais évidemment ça coûte très cher le travail de traduction. On peut dire que c'est l'équipe qui a travaillé sur ce travail de traduction, donc moi, Jacqueline Royce et Hervé Denez et André Bernard, on l'a fait à titre militant voilà, donc c'est pour ça qu'ils ont pu faire paraître ce livre, que ce livre a pu être publié aujourd'hui. Et c'est peut-être pour ça que jusqu'à présent, il n'y avait pas un éditeur français qui avait osé le publier. Et c'est pour ça que ça me met en colère, que ça fait quand même depuis 40 ans qu'on a droit à cette vision complètement déformée de l'épopée d'une anarchiste qui a même osé s'appeler « De l'amour et des bombes », et qui est complètement contraire à la vision d'Emma Goldman. Elle était pas pour la violence, même s'il y a eu cet attentat. Bon, j'ai pas voulu parler ici de pour pas faire trop long, mais il y a eu ce fameux attentat contre le dirigeant d'une aciérie, Frick, qui a été fait par Alexandre Berman, pour lequel elle était d'accord, et pour lequel Alexandre Berman a fait 14 ans de prison. Il avait été condamné à 22 ans, il a réussi à n'en faire que 14, mais 14 ans dans d'effroyables conditions, puisqu'il a passé la plus partie de son temps en isolement, et pour lequel il a d'ailleurs écrit un livre absolument extraordinaire qui s'appelle « Mémoire de prison » d'Alexandre Berman, mais pour lequel aussi ça a été raccourci beaucoup par la maison d'édition qui a publié le livre. Donc, suite à cet attentat, donc était la propagande qui était mise, qui était une façon de mettre en fait en pratique la propagande par le fait. Emma Goldman est revenue très vite sur cet attentat et très vite a dit que le geste est erroné. Le geste est noble, mais il est erroné. C'est-à-dire que très vite, elle a pris position contre ce type d'attentat. Voilà, donc, publier, sortir un livre avec un titre comme « De l'amour et des bombes », c'est vraiment rien à voir avec, avec la personnalité, avec ce qu'elle était. Moi, ça me met en colère. Parce que c'était fait par deux femmes, donc ça me met aussi en colère. Parce que c'est une façon de... d'effacer et de dénaturer voilà, ce qu'elle a été. Bon.
Donc, tu as répondu à la question que je voulais te poser. Comment elle était passée de la propagande par le fait, puisqu'au départ c'était quand même bien ancré là-dedans, à, au refus de toute forme de violence, même pour les pires infâmes. Même parfois elle disait on s'en prend au patron, mais pas à l'être humain qui est derrière ce patron. C'est pas la personne qui nous importe, c'est l'être humain.
Ah ouais.
Et c'est vrai que, bon, j'ai pas lu, parce que ça laisse pas du temps. J'ai fait une entrée par Jack London. J'ai regardé sur tous les pages sur Jack London, et du coup, c'est comme ça que, de fil en aiguille, je suis remonté sur toute l'histoire de Sacha, Sacha, c'est Alexandre Berman, l'environnement, la propagande par le fait, et puis après, comment c'était Jack London qui devait faire une préface
pour
les mémoires d'Alexandre Berman et le conflit qu'il y a avec Emma Goldman sur ce problème-là. Parce que lui, à la fois, voulait bien faire cette préface, mais la façon dont il la voyait ne convenait pas du tout à Emma.
Oui. Alors en fait, quand elle rencontre Johann Most, donc qui était le social-démocrate allemand, qui était devenu anarchiste allemand, il était pour la propagande pour le fait. Et quand elle était en Russie, elle avait lu en fait les nihilistes, les livres qui étaient interdits à l'époque, les nihilistes. Je pense qu'elle avait été quand même, il y avait une certaine influence, elle avait assisté elle avait rencontré des étudiants russes, donc il l'avait certainement influencée. Elle était très influencée par les femmes révolutionnaires de cette période-là, en Russie. Donc quand elle rencontre Johann Most, qui était pour la propagande pour le fait, ça faisait écho chez elle à ce moment-là. Ensuite, il y a l'attentat. Elle, dans cet attentat, seul Berman l'a fait, mais elle devait être la voix qui devait expliquer aux ouvriers pourquoi cet attentat, parce qu'ils pensaient qu'avec cet attentat qui avait la répression, il y avait eu donc un conflit ouvrier très très fort à l'époque dans les aciéries de Carnegie. Donc le directeur de ces aciéries s'appelait Frick. Frick avait fait tirer contre les ouvriers, donc il y avait eu beaucoup de morts. Les ouvriers s'étaient battus. Il y avait eu des morts de chaque côté, du côté ouvrier et du côté des Picanton, c'est-à-dire c'était des agences de police privées. Et donc ils pensaient que c'était clair pour tout le monde et pour tous les ouvriers que Frick c'était vraiment le salaud, quoi, que c'était vraiment un patron. Salaud, et que enfin on allait les ouvriers allaient pouvoir se lever tous ensemble contre leurs conditions de vie. Et ce qu'elle découvre après l'attentat, d'abord qui se passe quand même dans des conditions assez terribles, parce que finalement Alexandre Berman essaye de réaliser une bombe, de fabriquer une bombe avec un manuel qu'avait écrit Johann Most, qu'il avait écrit un manuel sur comment utiliser, comment fabriquer des bombes, la nitroglycérine et tout ça. Il est, c'est vraiment des pieds nickelés, quoi. Il fait ça dans une maison, dans un immeuble, chez des gens qui les hébergent. Enfin bon, c'est vraiment pieds nickelés. Donc la bombe ne marche pas. Finalement, il doit acheter un revolver. Ils n'ont pas d'argent pour acheter un revolver. Donc c'est elle qui essaye de faire la prostituée. Mais évidemment, elle n'a rien à voir avec la prostituée. Donc pour essayer d'avoir de l'argent pour pouvoir acheter ce revolver, bon, finalement, il arrive à avoir quand même un revolver. Parce que sa sœur lui prête de l'argent pour pouvoir acheter le revolver. Donc il prend ce revolver et il tue même pas Frick. Il lui balance plusieurs balles dans le corps. Frick va être blessé, il va mourir bien longtemps après. Il donne des coups de couteau. Voilà, donc c'est tout ça, c'est rocambolesque quelque part, c'est pieds nickelés. Mais en même temps, ce qu'il pensait qu'avec cet attentat, ça allait soulever en fait, et ça allait attirer l'attention du mouvement ouvrier sur le mouvement anarchiste. Et en fait, c'est pas du tout ça qui se passe. C'est ça que Emma Goldman va constater, c'est qu'en fait, les ouvriers même pour lesquels, voilà, ils ont fait cet attentat, vont dire, ben c'est incroyable, ils vont dire que Bergman, il a fait ça pour développer la popularité du patron de Frick. C'est-à-dire qu'ils vont retourner la chose. Ils vont dire qu'il a fait ça parce que, en fait, la popularité de Frick, il était tellement impopulaire, ce patron, qu'en fait, c'était pour qu'il devienne populaire. C'est-à-dire que c'était tout le contraire de ce qu'ils avaient pensé. Et donc ça, moi, je trouve extraordinaire chez elle, c'est qu'elle a la capacité de remettre en question les choses. Et là, elle remet en question, c'est quoi ce qu'on a fait? C'est quoi cet attentat? Et donc, elle remet en question le fait que finalement, ça ne sert à rien. En plus, Johann Most, donc, qui avait écrit ce manuel, qui était pour la propagande pour le fait, va traiter Alexander Bergman d'idiot et d'imbécile, c'est-à-dire qu'il va se retourner contre Alexander Bergman, contre le geste d'Alexander Bergman. Donc ça va être, évidemment, là, ça va être là, ils vont... Emma Goldman va même le... Elle va aller à un meeting de Johann Most et elle va le cravacher en public tellement elle est furieuse par cette prise de position. Donc elle comprend en fait, elle essaye de comprendre. Et ce qu'elle comprend, c'est qu'elle comprend que ce sont les êtres les plus sensibles qui évidemment sont amenés parfois à avoir ce genre de gestes. Et qu'on ne peut pas être contre ces êtres les plus sensibles, mais que malheureusement le geste est noble, mais il est erroné. Et en 1901, un jeune homme nommé Léon Solkoz, j'arrive jamais à le dire son nom, va tuer le président des États-Unis, McKinley. Et comme il avait assisté à deux réunions où était présente Alexander Bergman, on va dire que c'est à cause de ses relations avec Emma Goldman qu'il a fait cet attentat. Donc Emma Goldman va être emprisonnée, elle et beaucoup de ses camarades anarchistes, alors qu'en fait ce jeune homme, effectivement, il était intéressé par les idées anarchistes, mais il ne connaissait pas grand-chose en fait. Et ça va être pour elle après des années assez terribles parce que plus personne ne va vouloir lui louer un appartement, elle va plus pouvoir trouver de travail, elle va devoir changer de nom, elle va s'appeler E.G. Smith pour arriver à trouver du travail, et elle va être complètement isolée du milieu anarchiste parce que publiquement elle va essayer de soutenir Léon Jolcol, c'est-à-dire qu'elle prenait toujours la défense de la cause des exploités, des opprimés, de ceux qui étaient réprimés par l'État. Et elle fait bien la différence entre défendre leur cause et en même temps ne pas épouser leur cause, c'est-à-dire ne pas être d'accord avec l'acte qu'ils avaient fait. Mais ça, ses camarades anarchistes ne le comprennent pas, donc elle va vivre pendant, je ne sais plus, plusieurs, 2-3 ans, des années assez terribles d'isolement, tant au niveau personnel que politique. Voilà. Par contre, Alexander Bergman, lui, va mettre beaucoup plus de temps à prendre ses distances par rapport à la propagande par le fait, puisqu'il va dire à propos de cet attentat de Scholkos que c'est Scholkos, c'était pas un acte de nécessité sociale, tandis que moi, ce que j'ai fait, mon attentat, c'était un acte de nécessité sociale. Voilà, donc ils vont s'engueuler énormément là-dessus pendant longtemps.
Oui, l'épisode où elle essaie d'être prostituée, c'est extraordinaire. C'est vrai, quand tu disais, ça se lit comme un roman, mais c'est des petits fragments comme ça, c'est des nouvelles absolument extraordinaires. Ouais. Ce pauvre vieux là de 60 ans qui lui donne 10 dollars, qui lui dit, bon, écoute, je vois bien que t'es pas faite pour ce boulot, c'est pas possible.
Et elle avait une vision très romantique de ce que c'était une prostituée, en fait, parce qu'elle était elle avait lu Dostoïevski, tout ça, donc il y avait un personnage, j'ai oublié son nom, dans Dostoïevski, voilà, Sonia, je crois elle s'appelle, donc elle se voyait déjà dans le rôle de Sonia, et elle s'achète des vêtements pour essayer d'aller avec, elle se maquille, mais évidemment, elle a pas ce comportement-là, et quand elle rencontre ce vieux monsieur qui se voit bien qu'en fait, elle a rien d'une prostituée, et qui lui dit, ben, écoute, viens, on va aller quand même boire un verre, il a pitié d'elle, en fait. Et elle essaye de lui expliquer, mais moi, voilà, parce qu'elle a, elle a, parce que dans ces périodes, on s'est appris, en fait. Voilà. Ben bon, elle essaye de lui expliquer que les prostituées, voilà, c'est la condition de misère et tout ça. Et le vieux monsieur lui dit, ben écoute, je te donne 10 dollars et tu peux rentrer chez toi. Et quand elle rentre, effectivement, elle dort, et après, elle croit qu'elle a fait un rêve. Et le matin, quand elle se réveille, elle voit ses 10 dollars dans son porte-monnaie. Et là, voilà, elle réalise qu'elle a effectivement bien rencontré ce monsieur. Et mais ça ne va pas être suffisant pour acheter un revolver.
Et puis sa démarche, parce qu'elle dit, bon, il faut que j'ai la démarche d'une prostituée. Alors elle essaie de trouver la démarche d'une prostituée. C'est extraordinaire.
Ouais.
Et puis après, il y a un autre épisode aussi qui est très, très... Moi, je le trouvais très puissant parce que c'est l'enjeu de ce que tu disais tout à l'heure sur comment elle est en prise avec la vie réelle, quoi. Et pas idéologiquement, mais vraiment dans le vécu. C'est quand cet épisode de 2-3 ans où elle se détache complètement de CNBO, je crois, et où elle est amoureuse folle de lui.
Ah, de Reichmann, tu veux dire?
Oui. Mmh. Et elle dit, mais comment je peux continuer? Et elle continue, hein, parce qu'elle l'a dans la peau, quoi, et que, voilà. Mais plus ça va, moins elle peut lui parler, moins elle peut lui... Mais en même temps, elle est folle amoureuse de lui, donc elle continue cette relation jusqu'au moment où ils vont se séparer. Mais ça dure 2-3 ans, je crois.
Non, 10 ans.
Ah, 10 ans.
En fait, il a aidé son compagnon pendant 10 ans.
Mais le temps de cette séparation, où elle dit qu'elle a encore... il faut qu'elle fasse l'amour avec lui, quoi. C'est pas possible autrement, et en même temps elle peut plus le sentir, quoi. C'est plus il parle et moins elle se sent en accord avec c'est des choses aussi qui sont
Et moi, ce que j'ai trouvé extraordinaire, c'est sa capacité qu'elle a justement d'essayer de comprendre pourquoi cette relation avec cet homme qui était Ben Reitman, donc qui va partager sa vie pendant 10 ans, qui va l'accompagner, qui va sillonner le pays avec elle. Quand elle est en prison, elle essaye de comprendre, à la fin, quand elle est en prison entre 1918 et 1919, elle essaye de comprendre le pourquoi de cette relation. Et je trouve que c'est très fort parce qu'elle comprend comment elle a pu supporter cet homme. Et elle dit... jusqu'à présent, dans la majorité des cas, ce sont les hommes qui demandaient aux femmes de faire les choses pour eux. Ce sont les femmes qui faisaient les choses pour les hommes. Et là, elle dit, c'est la première fois dans la vie, ou dans ma vie, en tout cas à moi, qu'il y a un homme qui m'a consacré entièrement 10 ans de sa vie. C'est-à-dire qu'effectivement, Ben Reitman... là, c'est lui qui l'accompagnait, qui organisait les conférences pour elle, qu'il y avait du monde qui venait à ses conférences, donc il faisait qu'il pouvait survivre parce qu'il ne travaillait pas, donc il fallait bien avoir de l'argent pour manger, que du monde assistait donc la, aux conférences, donc ça voulait dire que la propagande anarchiste se développait, qu'on vendait les livres, qu'on vendait la documentation, qu'on avait aussi de l'argent pour soutenir Alexandre Bergman, qui lui aussi ne travaillait pas, donc, dont elle subvenait à ses besoins, et aussi pour pouvoir soutenir la revue Mother Earth. Et ça, je trouve que c'est extraordinaire qu'elle soit capable de reconnaître en fait cet homme pour qui, dont elle était effectivement folle amoureuse physiquement, mais qui en même temps était absolument pas fiable au niveau personnel, parce qu'il l'a trompée à tout vent, quoi. Qui n'était en fait n'était amoureux que de sa mère, sa propre mère, avec qui elle va partager un peu, et qui va vivre un peu sous leur même toit. Donc elle comprend que cet homme, qui était aux antipodes de ce qu'elle était, qui était aux antipodes de sa conception de l'amour, puisque pour elle, la sexualité, ça allait avec l'amour, c'était pas séparé, c'était pas deux choses antagoniques, c'était deux choses qui allaient ensemble. Et bien, comment elle avait pu, voilà, accepter de vivre pendant toutes ces années avec lui. Et elle comprend que c'est pour ça que, en fait, il lui a donné 10 ans de sa vie. Et que, dans un certain sens, elle lui en est reconnaissante. Et d'ailleurs, elle va garder un peu de relation avec lui. Bon, après... après, ils n'auront plus de relation du tout, mais elle ne va pas lui cracher dessus, quoi. Elle va essayer de comprendre. Et moi, je trouve ça extraordinaire, cette capacité qu'elle a de revenir sur ce qu'elle fait dans sa vie et de comprendre. Elle comprend les relations avec son père, qui a été extrêmement violente. Elle comprend pourquoi son père avait ce comportement-là avec elle. Et elle lui pardonne. Et c'est voilà, je trouve que c'est... C'est merveilleux de pouvoir faire ça dans la vie, de pouvoir comprendre des choses, même si les choses sont extrêmement difficiles, voilà, et de pouvoir le pardonner quand on peut les pardonner, bien sûr.
Pour en revenir à Johann Most, il avait pas une grande aura dans le mouvement anarchiste allemand. Tout le monde se foutait de sa gueule, surtout en Allemagne.
Non, mais là, je parlais aux États-Unis. Hein. Non, aux États-Unis, oui,
en Allemagne, on lisait, et le bouquin où il vous explique comment faire du bon, tout le monde se foutait de sa gueule en Allemagne.
Mais aux États-Unis, il était. Voilà. Peut-être en Allemagne, je ne sais pas.
Excuse-moi, il n'avait aucun contact avec Chicago. Et tous les camarades de Heidmarker étaient allemands.
Oui.
Oui, et lui, il n'avait aucun contact, et j'ai vu des choses pas très gentilles.
Oui, mais il était, ceci dit, il était un orateur extrêmement redouté.
Il n'était pas aimé.
Non, mais c'est d'ailleurs pour cette raison qu'Emma Goldman va le voir. Parce que quand elle est à Rochester, qu'il y a les événements de Haymarket Square à Chicago, et donc elle décide de défendre la cause des anarchistes, elle tombe sur le journal de Johann Most qui s'appelait Die Freiheit, elle le lit, elle est complètement emballée par justement sa dénonciation extrêmement virulente de l'État, et la première chose qu'elle fait quand elle arrive à New York, c'est justement de vouloir aller au bureau, de vouloir aller rencontrer Johann Most. Et c'est pas par hasard, c'est parce qu'il était à l'époque aux États-Unis, moi je connais pas trop en Allemagne, il était devenu une figure très très importante du mouvement ouvrier et surtout un orateur extrêmement extrêmement puissant. Il était déformé physiquement, ce qui rendait les choses pas forcément faciles pour lui, mais il savait parler et il savait voilà. Mais ce qui, je trouve, est intéressant, c'est que Johann Most forme Emma Goldman, et en particulier, il la forme pour ce qu'elle doit défendre comme propagande du mouvement anarchiste. À l'époque, c'était le mouvement des 8 heures. Et donc, elle fait ses premières conférences, et l'idée de Most, c'était de dire... On n'est pas pour la revendication des 8 heures, parce que nous, on défend la société anarchiste, l'anarchisme, voilà, comme société à venir. Et la première conférence, je crois première ou deuxième conférence qu'Emma Goldman donne, elle la donne là aux ouvriers qui sont là, il y a des vieux ouvriers qui sont là, et puis il y a un vieil ouvrier, donc elle dit ça, elle dit qu'il ne faut pas se défendre, il ne faut pas lutter contre les 8 heures, enfin, il ne faut pas lutter pour les 8 heures, il n'y a que la cause anarchiste qui compte. Et il y a un vieil ouvrier qui prend la parole et qui lui dit mais comment, si on peut travailler 2 heures de moins, qu'est-ce que c'est important quand on est un ouvrier de mon âge? Qu'est-ce qu'on gagne comme temps? Je pourrais avoir 2 heures de plus pour lire, pour être à l'air libre. Et là, elle comprend qu'elle a fait une faute et qu'effectivement, il faut défendre la revendication des 8 heures. Et c'est là que commencent ses premiers conflits avec Johann Most.
Juste un tout petit mot. Moseriste, ça existe encore.
Comment? Moseriste.
Moseriste.
Ah oui, pardon.
Le journal qu'avait fait Emma Goldman, il parle.
Ah, Moverhoff, pardon, excuse-moi. Ah, d'accord. Il existe encore, c'est-à-dire. Non, il n'existe plus. Non. Il a existé. Moi, je.
USA, mais aux USA, ça ne veut rien dire.
Il a existé de 1906 à 1917. Après, il y a eu un bulletin, parce qu'il a été interdit aux États-Unis.
Il existe tous les 3 mois. Mais
c'est un.
Quadrille, et tout ça. Ça fait un manac.
Oui, mais c'est une. C'est d'autres personnes qui le font, parce que ça n'a plus rien à voir, voilà. Avec le bulletin que faisait Emma Goldman.
Non, c'est. Ils reprennent le titre.
Oui, voilà, c'est ça. Donc ce n'est pas l'original, on va dire. Parce que le bulletin après qui a succédé, comme ils ont eu la censure en 1917, après avec sa nièce ils ont fait un bulletin, ça s'appelait Bulletin de Moverhoff, qui a duré jusqu'en 1918, et après ça s'est arrêté parce qu'ils avaient la police sur les dents et qu'ils ne pouvaient plus du tout continuer à produire. Donc ça doit être d'autres personnes qui ont repris le titre.
Oui, mais c'est, je te dis, ça fait, il y a un petit bout sur la Révolution russe. Un petit mot sur la Révolution espagnole, ça fait almanach.
Ouais.
Voilà.
Bon.
Est-ce que Emma Goldman, quand elle était en France, elle a rencontré Magnon, puisque justement ils avaient.
Elle a rencontré
Nestor Magnon, puisqu'ils avaient cette expérience de la Révolution russe, est-ce qu'ils ont partagé.
Alors, elle n'en parle pas, là. Non. Elle n'en parle pas. Quand elle était en Russie, il y a eu un moment donné, quand ils étaient en Ukraine, Magnon avait eu connaissance, donc ils avaient dans ce train-là qui traversait la Russie, ils arrivent en Ukraine, et là, donc avec les anarchistes ukrainiens, Magnon sait que Alexandre Bergman et Emma Goldman sont là. Donc, il envoie en fait sa femme, Galina Magnon, rencontrer Alexandre Bergman et Emma Goldman, et il leur demande d'aller rencontrer dans un lieu. Il leur propose de simuler un enlèvement, parce qu'ils ne sont pas tout seuls dans le train, il y a 6 autres personnes qui sont avec eux, puis il y a quand même 2 membres du parti bolchevique, hein, donc il faut faire attention. Donc il leur propose de simuler un enlèvement, et pour pouvoir les rencontrer et pour pouvoir donc essayer d'organiser avec eux voilà, quelque chose. Mais Alexandre Bergman il est pour la chose, il dit d'accord, on va y aller, il veut absolument rencontrer Magnon. Mais Emma Goldman elle refuse en fait, parce que d'abord elle dit on a un devoir vis-à-vis du musée de la Révolution, on n'est pas là tout seul, on est là avec 6 autres personnes, on ne peut pas les mettre en danger. Et d'autre part, elle ne veut pas s'engager avec Magnon. En tout cas, à ce moment-là, elle ne veut pas s'engager parce qu'elle était contre les. Enfin, ce que j'ai compris, hein, c'est que le côté militariste de l'action de Magnon, elle ne le partageait pas. Et elle est encore à un moment donné où elle ne veut pas critiquer de façon publique les bolcheviques, l'action des bolcheviques. Donc voilà, elle est partagée entre sa critique, le fait qu'elle ne veut pas rendre publique sa critique du parti bolchevique, parce qu'elle veut continuer à soutenir la révolution bolchevique, et donc le soutien à Magnon qui signifierait en fait voilà, être contre le parti bolchevique. Donc elle décline la proposition de Magnon, mais il y a un très beau moment où elle raconte comment elle rencontre donc Galina Magnon. C'est un très joli moment parce que Galina Magnon veut connaître comment ça se passe aux États-Unis, comment ça se passe la vie des femmes. Et donc elle parle très très longuement. Je crois qu'elle passe la nuit entière à parler ensemble. Et Galina Macnou s'en va dès le matin. Elle était là dans des conditions extra... C'était secret, que je veux dire. Il fallait qu'elle fasse très attention à sa vie. Elle est très admirative de que cette femme a réussi à venir jusqu'à elle, jusqu'à eux, pour leur faire cette proposition. Donc, Macnou, elle ne l'a pas rencontré en Russie. Elle ne dit pas qu'elle le rencontre en France. Peut-être qu'elle l'a rencontré. On sait que, par exemple, à Paris, elle a continué à maintenir les liens avec Angelika Balabanov, qu'elle avait rencontrée en Russie. Mais moi, j'ai rien lu là-dessus. Mais en tout cas, ils ont contribué, avec Alexandre Bergman, à soutenir donc les anarchistes russes qui ont été expulsés de Russie, puisqu'ils arrivaient, ils n'avaient aucun moyen matériel de survivre. Voline, je crois qu'il avait 6 enfants, quelque chose comme ça. Archinov, enfin bon, ils étaient malades en plus. Donc ils ont certainement, évidemment, soutenu Macnou et dans ces conditions de vie matérielles, quoi, pour pouvoir survivre. Ben voilà. Peut-être qu'on peut s'arrêter là, je ne sais pas s'il n'y a plus personne. Ben merci.
Sur la tradition, justement, l'autre édition, pourquoi, quelles ont été leurs raisons d'avoir pensé ça? C'est une traduction qui répond à quel objectif?
Moi, j'en sais rien. Ce que je sais, c'est que c'est Hachette qui l'a publié en 1979, qu'elles font, dans la postface, elles disent, donc publiquement, puisqu'elles l'écrivent, qu'en fait, Emma Goldman trouverait que c'est une trahison, ce qu'elles sont en train de faire. Elles disent, d'ailleurs, c'est marqué adaptation, c'est pas marqué traduction, hein, c'est marqué adaptation en tête de... Voilà, c'était les rééditions. C'était la réédition.
Ça a eu des rééditions du texte intégral quand même.
C'est un mensonge.
C'est le texte intégral de Hachette.
Voilà, c'est le texte intégral de la première édition de Hachette. Voilà. Et c'est quand même Hachette, 1979. Donc il voulait rendre populaire une voix d'une femme. Mais.
Et c'était dans une collection de chez Hachette une collection féministe ou...
Non, c'était une collection tout publique. Oui, ça s'appelait Hachette
Témoignage.
Hachette littérature peut-être. Oui. Hachette littérature, peut-être, je ne sais plus très bien comment ça s'appelait. Mais voilà. Et en fait, elles disent elles-mêmes, les deux traductrices, que Emma Goldman serait absolument furieuse de lire ça, parce que c'est une vraie trahison, mais elle comprendrait peut-être qu'elle devait gagner leur vie, et que donc c'est pour ça qu'elle... voilà.
Elle se dédouane, mais c'est une commande d'Hachette.
Ouais. Commande d'Hachette. Non, c'est-à-dire qu'elles ont ramené, elles disent qu'elles ont ramené le livre des États-Unis, et qu'elles ont dû proposer à Hachette la traduction, que probablement Hachette a dit 1000 pages, c'est impossible... raccourcissez à 300 pages ce qu'elles ont fait. Elles ont accepté.
À condition de pouvoir pour ce qu'on se fasse le
livre. Ouais.
Bon.
Donc enfin aujourd'hui on a la vraie. Voilà. C'est ça le plus important.
Il y a encore des exemplaires disponibles sur la table.
Ouais.
Donc, merci.
Ben avec plaisir, merci. Ça me fait plaisir d'être là et d'en parler parce que...